Bonjour à tout le monde. Le message d'aujourd'hui a pour titre « De la Pâque à la Pentecôte ». De la Pâque à la Pentecôte. Et on vient de célébrer la Pâque et les pains sans levain il y a très peu de temps. Et là, on se dirige vers une autre fête merveilleuse, celle de la Pentecôte. Et pour mon message aujourd'hui, je me suis inspiré d'un article qui a été écrit il y a un certain nombre d'années par M. John O'Gwin. Et cet article-là a été reproduit dans le Living Church News de mai-juin 2011. Et il a pour titre aussi « De la Pâque à la Pentecôte ». Et c'est une préparation, dans le fond, à la Pentecôte qui s'en vient. Pour pas qu'il y ait une dichotomie ou un vide entre les deux fêtes. Parce que les fêtes de Dieu, ça se tient. Et vous allez voir surtout les fêtes de la première saison, c'est-à-dire la Pâque et les pains sans levain, avec la fête de la deuxième saison, la Pentecôte, il y a un lien très, très, très étroit et très particulier entre les deux. Et c'est bon qu'on pense déjà à la Pentecôte et qu'on s'y prépare. Vous savez, les fêtes de Dieu, ça forme un tout. C'est le plan de Dieu au complet. Et comme je mentionnais, il y a trois saisons de fêtes clairement identifiées dans la Bible. Il y a au printemps la Pâque et les pains sans levain. Ça, c'est les deux fêtes qu'il y a au printemps. Ensuite, début de l'été, la fête de la Pentecôte. Et après, on s'en va à l'automne, la troisième saison, là où il y a les quatre fêtes de l'automne, les quatre dernières fêtes du plan de Dieu, soit les trompettes, les expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Et comme vous savez, la Pentecôte, c'est la seule fête qui n'est pas célébrée à une date fixe chaque année ou à une date déterminée chaque année. Il faut calculer, il faut faire un calcul pour savoir chaque année quel jour on doit célébrer la Pentecôte. D'ailleurs, son nom, Pentecôte, veut dire « compter 50 ». Pentecôte, ça veut dire « compter 50 ». Alors, pour savoir à quel jour célébrer la fête de la Pentecôte, on doit compter 50 jours à partir d'un moment précis. À partir du dimanche, suivant le sabbat hebdomadaire qui a lieu durant la fête des pains sans levain. Je reprends mon expression parce que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on commence à compter pour le 50 jours qu'on doit compter pour savoir quel jour tombe la fête de la Pentecôte. On compte à partir du dimanche qui suit le sabbat qui est à l'intérieur des 7 jours de la fête des pains sans levain. C'est là qu'on commence le décompte chaque année et ça nous dit exactement à quel moment célébrer la fête de la Pentecôte. Allez à Lévitique 23. Lévitique, chapitre 23, c'est le chapitre où Dieu a décrété ses fêtes, ses 7 fêtes annuelles, que son Église célèbre et que le monde va célébrer dans le monde à venir après le retour de Christ et qu'on célébrera par après ensuite, parce que ça va toujours garder la même valeur de représenter les étapes dans le plan de Dieu. Alors, Lévitique 23, versets 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. » Donc, c'est-à-dire ce qui aura poussé de la terre, de la récolte, qui aura été coupée, qui aura été attachée en gerbe. Il dit, « Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson, premier fruit de votre moisson du printemps. » Et le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée, afin qu'elle soit acceptée par Dieu. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Comme je vous ai dit, on commence à compter à partir du dimanche, le lendemain du sabbat, qu'il y a durant la fête des pains sans levain. Verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat hebdomadaire, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. OK? 7 semaines, 7 fois 7, 49, plus 1. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête, qui est la fête de la Pentecôte, ou la fête du compter 50, si vous voulez, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Et nous, nous allons célébrer cette fête cette année encore avec joie. Dieu a révélé ces fêtes à Israël la première année où ils sont sortis d'Égypte. Il était prisonnier, il était captif en Égypte depuis plus de 400 ans. Quand ils sont sortis d'Égypte, là, ils avaient perdu notion de Dieu, de ses sabbats, de ses fêtes. Et là, Dieu leur a proclamé ses fêtes pour leur apprendre. Et notez bien que la Pâque et les pains sans levain, pour eux autres, et comme pour nous sur le plan spirituel, c'était directement lié à la délivrance. Parce que c'est là qu'ils ont été délivrés. Vous vous rappelez, à la Pâque, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Mettre du sang d'un petit agneau sur la porte. Et le Christ a dit, je vais passer par-dessus les maisons où il y a le sang, il n'y aura pas personne qui va mourir là, mais dans les maisons où il n'y a pas le sang du petit agneau sur la porte, il y aura un mort dans chaque maison. Ça, c'était le début. Ensuite, au moment de la sortie d'Égypte, premier jour des pains sans levain, et ça a été leur délivrance. Alors, ça, je vous dis, Dieu a révélé ses fêtes à Israël, à ce moment-là, au moment de leur sortie d'Égypte. Et pour eux autres, la Pâque, puis les pains sans levain, c'était leur délivrance physique. Alors que nous, c'est notre délivrance spirituelle. Lorsqu'on peut prendre la Pâque, parce qu'on a été baptisé, et qu'on continue de se purifier. Alors, eux autres, ils ont commencé leur voyage vers la liberté après ça, la nuit suivant la Pâque. Au même moment où on a célébré, cette année, la soirée mémorable. C'était le début du premier jour des pains sans levain, au début de la journée. On sait que la journée commence après le coucher du soleil. Alors, ils ont commencé leur voyage vers la liberté, la nuit de la Pâque, soirée mémorable, début du premier jour des pains. Et durant les jours des pains sans levain, les Israélites ont marché jusqu'à la mer Rouge. C'est dans cette petite période de temps-là qu'ils se sont déplacés de l'Égypte à aller jusque sur les bords de la mer Rouge. Et là, vous connaissez l'histoire. Dieu a ouvert les eaux. Dieu leur a permis de traverser. Et après ça, lorsque les Égyptiens se sont engagés dans ce tunnel d'eau, pour ainsi dire, entre les deux parois que Dieu avait fait, ils ont été engloutis parce que Dieu a ramené les eaux sur eux. Alors, au cours des semaines suivantes, en allant vers la Pentecôte, là, ils étaient sortis de la mer Rouge, mais dans les semaines suivantes, eux autres aussi s'en allaient vers la Pentecôte, parce qu'ils s'en allaient vers le mont Sinaï, où ils allaient recevoir les lois de Dieu. OK? Alors, donc, dans les semaines suivantes, en allant vers la Pentecôte, les Israélites ont continué leur voyage jusqu'à Horeb, H-O-R-E-B, comme la Bible dit. Et Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï. Vous pourrez aller voir dans Exode 3, verset 1, on dit que c'est la correspondance. Horeb, c'est le mont Sinaï. Le jour de la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a fait? De sa voix tonitruante, il a donné les 10 commandements. Et il les a écrits pour Moïse sur deux tables de pierre. Ça, on sait ça. C'est ce jour-là qu'il a donné ses 10 commandements. Et c'est ce jour-là que Dieu a fait alliance avec son peuple choisi, le peuple physique de la nation d'Israël. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'est la fondation de l'Église. C'est ce jour-là où l'Église a été fondée. C'est ce jour-là où Dieu a donné son esprit à son peuple de façon plus nombreuse, à son peuple spirituel. Et en donnant son esprit, ça rendait les gens capables d'observer la loi, les 10 commandements, non seulement dans la lettre, mais dans l'esprit. D'accord? Pas tout d'un coup, parce qu'il fallait travailler, il faut encore travailler pour s'améliorer à obéir les lois. Je fais simplement la comparaison de ce qu'ils ont vécu, eux, le jour de la Pentecôte, et de ce que ça représente pour nous, la Pentecôte maintenant. Le Saint-Esprit qui est donné maintenant à ceux qui se repentent et qui se font baptiser. Alors, sous la Nouvelle Alliance, la Pâque et les pains sans levain mettent l'accent sur le Christ. Et je vais vous montrer comment, même pour la Pentecôte, que c'est le cas. Alors, la Pâque et les pains sans levain, ça met l'accent sur le Christ dans son rôle de rédempteur. Pourquoi? Parce qu'à la Pâque, c'est lui l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour payer l'amende de nos péchés. De sorte que quand on se repent et qu'on se fait baptiser, nos péchés peuvent être lavés, pardonnés. OK? Alors, la Pâque, ça met l'accent sur le rôle du Christ en tant que notre rédempteur. Et les pains sans levain, ça met l'accent sur le rôle de Jésus-Christ en tant que pain sans levain. En tant que pain sans levain. Parce que lui n'a jamais péché. Lui n'a jamais péché et il s'est présenté comme le pain de vie. C'est lui qui nous donne la vie éternelle par après. Voyez-vous? Alors, il est impliqué dans les pains sans levain. Nous, on est impliqué dans les pains sans levain parce que c'est notre rôle à jouer de nous débarrasser du péché. Mais dans la même fête des pains sans levain, il y a une signification de base bien importante, la présence du Christ, qui, lui, est notre exemple en toute chose. Le pain parfait, le pain de vie, le pain sans levain qui, lui, n'a jamais péché. Et un jour, lorsqu'on sera transformé en être spirituel, on sera capable de ne plus pécher comme lui. Voyez-vous? Il est notre exemple en toute chose. Alors, dans l'Ancien Testament, quand on agitait une gerbe, comme on a vu, au cours de la fête des pains sans levain, ça représentait Jésus-Christ ressuscité, enlevé de la terre, mort et ressuscité, qui était présenté à Dieu. Et on voit dans le Nouveau Testament, à un moment donné, que le Christ a traversé les cieux et s'est présenté devant son Père, non pas avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang, et lequel a été agréé. Alors, cette gerbe-là qui était agitée au cours de la fête des pains sans levain, ça représentait Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né spirituellement. Les autres viendront à son retour, lorsque ceux qui appartiennent à Christ et qui seront encore vivants seront changés en un instant, et ceux qui sont morts au cours de l'histoire, mais qui appartenaient à Christ, seront ressuscités, ramenés à la vie, mais cette fois-ci, non pas à une vie physique, mais à une vie spirituelle. Alors là, il n'y aura pas juste un premier-né dans la famille de Dieu, il y aura plusieurs petits frères et petites sœurs pour le Christ. Dieu va agrandir sa famille à ce moment-là. Mais cette gerbe-là représentait le Christ ressuscité, le premier-né d'entre les morts, qu'on appelle aussi les prémices, ou le premier fruit de la moisson spirituelle de Dieu. Premier fruit de la moisson spirituelle de Dieu. Premier fruit de la moisson spirituelle de Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Dieu se compose de tous ceux qui ont conclu alliance avec leur Créateur. Quand on se repent, qu'on veut changer, qu'on demande pardon à Dieu de notre vie passée, qu'on lui consacre notre vie entière et qu'on lui dit « Fais ce que tu veux avec moi, amène-moi à terme pour que je naisse dans ta famille », à ce moment-là, on fait alliance avec Dieu par le sang du Christ quand on est passé par les eaux du baptême. Ça, c'est l'Église de Dieu aujourd'hui. Et depuis la Pentecôte du Nouveau Testament, comme j'ai mentionné tantôt, le Saint-Esprit est accordé, justement, à tous ceux qui se repentent vraiment, qui regrettent d'avoir transgressé les lois de Dieu et qui s'efforcent de ne plus le faire. À ceux qui sont baptisés et qui sont des véritables chrétiens, c'est-à-dire qui s'efforcent, malgré leurs limitations, malgré leurs faiblesses, malgré les difficultés, les obstacles, d'appartenir à Dieu, de continuer fidèlement à persévérer jusqu'à la fin. L'Église se compose de ces gens-là. Et Dieu leur a donné son Saint-Esprit et il nous le redonne chaque jour quand on lui demande pour installer en nous sa nature à lui, son caractère à lui, pour qu'on le développe, ce caractère-là. Allez dans 2 Pierre. 2 Pierre. C'est une histoire fantastique, l'histoire de ce qui se passe entre les fêtes de la première saison, la Pâque et les pains sans levain, et la fête de la Pentecôte, parce que c'est l'histoire de notre cheminement chrétien. Et c'est l'histoire du Dieu qui nous aime et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance, son Saint-Esprit, qu'il donne à ceux qui se convertissent, qui se font baptiser. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne parle pas ici de la vie physique, il parle de la vie spirituelle. Parce que la vie physique, on l'a déjà. Mais sa puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie spirituelle qu'il nous donne par son Saint-Esprit pour nous mener vers la vie éternelle. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie spirituelle, vers la vie éternelle, et à la piété, c'est-à-dire pour nous rendre capables d'obéir à ses lois, c'est ça la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui, parce que si on fait notre part, qu'on le supplie chaque jour de nous donner cette force-là, de nous donner de continuer à nous repentir. Et il le fait parce que c'est ce qu'il veut. Ce faisant, nous faisons sa volonté et on peut être sûr d'avoir sa réponse, son aide, ses bénédictions et l'accomplissement des précieuse promesse dont il est question ici. Afin que par elle, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Voyez-vous? C'est que plus on a son esprit en nous, plus on s'en sert pour vivre selon ses voies, plus on participe à la nature divine, c'est-à-dire plus la nature divine est développée en nous. Mettons ça dans ce sens-là. Et on développe le caractère de Dieu en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et notre combat continue à ce moment-là pour continuer d'éliminer nos points faibles. Hébreux 8, juste un peu avant. Hébreux 8, on va lire le verset 10. C'est ce qui se passe pour les gens que Dieu appelle actuellement, le petit troupeau qu'il appelle, qu'il place dans son Église et qui continue de se repentir pour faire la volonté de Dieu. Hébreux 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Puis aujourd'hui, on est la maison spirituelle d'Israël. On est l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là, Dieu décrivait, ça c'est une citation de l'Ancien Testament, Dieu décrivait qu'il allait venir une nouvelle alliance sous laquelle nous sommes, alors que Dieu actuellement écrit ses lois dans nos cœurs, par son esprit, comme on a vu dans Pierre tantôt. On devient participant de la nature de Dieu, où Dieu imprègne, nous imprègne de sa nature, de sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de réagir. Sa façon d'agir, sa façon de faire en général. Et plus on avance dans le temps et plus on applique ça, plus on ressemble au premier-né de la famille de Dieu. Plus on ressemble à notre petit frère, à notre grand frère, je devrais dire, celui qui est notre sauveur, notre rédempteur. Alors aujourd'hui, on a d'importantes leçons à apprendre du parcours de la nation d'Israël vers le mont Sinaï. À partir de la mer Rouge, là, aller vers le mont Sinaï. Il y a eu 7 semaines, là, entre les deux. Les 7 semaines qui nous séparent des fêtes de la première saison, de la Pâque et des pains sans levain, et de la fête de la deuxième saison, la fête de la Pentecôte. Et parmi ces leçons de base-là, les plus importantes, devrais-je dire, c'est que sans Dieu, nous ne sommes rien. S'il n'avait pas décidé de nous créer, nous n'existerions même pas. Et si Dieu n'avait pas fait en sorte de vous conserver aujourd'hui le souffle de vie que vous avez, vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Alors, sans Dieu, nous sommes rien. Ça, c'est sur le plan physique. Et c'est également vrai sur le plan spirituel. Je vais plus loin. Autre leçon à laquelle on peut penser au cours de cette période qui nous approche de la Pentecôte. Sans la Pâque, sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de possibilité d'être pardonné. S'il n'y a pas de sacrifice de Christ, il n'y a pas de possibilité d'être pardonné. C'est seulement par son sang qu'on peut être lavé. Maintenant, je vais plus loin. Sans les pains sans levain, sans la fête des pains sans levain de vie éternelle, qui est Jésus-Christ, nous ne pourrions avoir aucun espoir d'immortalité. C'est lui qui est le pain sans levain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie éternelle. Alors ça aussi, c'est une autre leçon qu'on doit réfléchir, à laquelle on doit penser au cours de ces jours-là pour apprécier le sacrifice de Christ, apprécier son rôle dans les fêtes. Et je vais plus loin maintenant. Sans la Pentecôte, sans le don du Saint-Esprit, impossible de vaincre nos fautes. Impossible de vaincre nos fautes. Impossible d'observer ses lois spirituelles et impossible de croître spirituellement. Ça a été prouvé par la nation israélite parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu non plus. Et ils ont été incapables d'eux-mêmes de faire la volonté de Dieu puis d'obéir à ses lois. Mais, et ça fait tellement bonheur à nos cœurs, mais parce qu'il y a la Pâque, parce qu'il y a le pain de vie, le Christ, parce qu'il y a le Saint-Esprit du Christ et de Dieu, nous pouvons arriver au but. Et nous pouvons accéder à la vie éternelle, à faire partie de la famille de Dieu. C'est son but, c'est ça qui est en tête. Et il va tout faire pour que nous parvenions à la vie éternelle. C'est ce qu'il veut pour chacun des êtres humains. Si, et il travaille particulièrement avec ceux qu'il appelle maintenant, juste son petit troupeau, et après que le Christ va être revenu dans sa justice, Dieu va appeler tout le reste des êtres humains. Mais pour le moment, il travaille avec ceux qui sont appelés. Et il va nous amener à terme si nous nous soumettons à lui totalement. si nous nous soumettons à lui totalement, si nous le supplions régulièrement de nous laver parce qu'on se trompe encore, de nous donner la force d'aller plus loin, de ne pas se décourager, et que nous lui demandions de nous aider à faire notre part en toute chose. Il va le faire, parce que c'est son but, il veut qu'on l'atteigne. Alors, si on insiste, il va nous donner la réponse. Il va nous donner la réponse. Vous savez, en cours de route vers le salut, Dieu le permet que nous ayons, nous qui sommes ses appelés, que nous ayons des difficultés, oui. Que nous ayons des épreuves, oui. Que nous ayons des choses inattendues qui dérangent dans nos vies, oui. Que nous ayons des déceptions, oui. Des pertes, oui. Des chagrins, oui. Des choses parfois que nous ne comprenons pas, oui. Dieu le permet pour nous tester, pour développer notre caractère. C'est parce qu'il nous aime. Dieu ne permettra pas qu'on entre dans son royaume en n'étant pas préparé. Dieu va être certain que quand il va nous donner la vie éternelle, que nous ne nous détournerons jamais de lui. Bien sûr, si nous amenons sur nous des conséquences négatives ou des problèmes parce que nous avons pris des mauvaises décisions, parce que nous avons transgressé les lois de Dieu, parce que nous n'avons pas pris conseil comme la Bible le demande, ou que nous n'avons pas suivi les voies qui nous sont montrées, bien là, on souffre parce qu'on a fait le mal, parce qu'on a choisi nous-mêmes de faire les choses à notre façon, et Dieu va nous laisser apprendre les leçons amères qu'on a à apprendre dans ces circonstances-là, tant qu'on n'aura pas compris. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais autrement, même si on est fidèle à Dieu, Dieu va permettre quand même qu'on ait des difficultés, des épreuves, parce qu'il veut nous tester, parce qu'il veut qu'on développe son caractère. Et il veut qu'on apprenne dans tout ça. Et ça, c'est la clé de voûte. C'est la chose la plus importante. Il veut qu'on apprenne à lui faire entière confiance, à compter sur lui toujours, à lui demander son Saint-Esprit chaque jour. Et j'en ai besoin chaque jour, tellement. Et lui demander de nous aider à l'utiliser chaque jour, son Saint-Esprit. Sinon, vous savez ce qui arrive? Si je ne demande pas à Dieu de m'aider dans chaque journée, d'aplanir mes sentiers, d'être dans ce que je veux faire, de m'aider à prendre les bonnes décisions, à dire les bonnes choses au bon moment ou à ne pas parler au bon moment, tout ça, si je ne mets pas mes journées entières dans ses mains, si je ne compte pas sur lui, vous savez quoi? Je dois compter sur moi. Et là, je suis en danger. Et là, si je compte sur moi-même, je suis en grand danger. Parce que là, il faut que je trouve moi-même, par ma supposée puissance et par ma supposée intelligence des choses, il faut que je trouve le moyen d'affronter mes difficultés, de régler mes situations problématiques et de passer à travers les adversités en ne comptant que sur mes moyens, si je ne lui demande pas régulièrement. Et quand je fais ça, ou quand vous faites ça, et ça nous arrive tous un jour ou l'autre de passer par ce genre de situation-là, mais il faut se dépêcher dans ce temps-là de revenir à Dieu, de reprendre nos études bibliques quotidiennes, régulières, de prier chaque jour, de lui demander son aide, puis de nous appliquer à faire sa volonté. Et là, Dieu nous redonne la force, il nous redonne encore son Saint-Esprit pour qu'on soit capable. Mais sinon, si je compte sur moi, ce que je vois à ce moment-là, c'est que je vois de moins en moins Dieu, je vois de plus en plus les problèmes. Je vois de moins en moins la majesté de Dieu, je vois de moins en moins sa puissance, je vois de moins en moins son désir de me libérer de toutes les situations, soit en enlevant la situation, ou soit en me donnant la force de passer à travers. Ça, il me le donne. Mais si je compte sur moi, que je détourne mes yeux de lui, à ce moment-là, je vois de plus en plus les problèmes, je vois de plus en plus mon impuissance, et je vois de moins en moins la puissance de Dieu et sa capacité à m'aider à passer à travers. Vous savez, je reviens là-dessus, puis c'est important. Les deux premières saisons de fêtes sont liées de façon particulière. Les deux fêtes du printemps et la fête du début de l'été. Le Christ, c'est le point central, c'est le pivot de tout ça. Le Christ est notre Pâque, c'est notre Rédempteur. Le Christ est notre pain de vie, le pain sans levain. Et le Christ, il est notre Pentecôte, c'est-à-dire qu'il est la présence active de Dieu en nous. Galates 2, verset 20, que M. Meredith nous cite si souvent et qui a tellement d'importance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez-vous sur qui je dois compter? Non pas sur petit moi, ou grand moi, parce qu'on est porté à se voir grand, mais ce n'est pas sur moi que je compte, mais sur le Christ. Sachant qu'il est en moi, je le supplie de me guider, de me diriger, de m'aider à réagir comme lui réagirait, à parler comme lui parlerait, ou à garder le silence comme lui garderait le silence. Il faut apprendre de plus en plus à compter sur Dieu, toujours, en toutes circonstances, en tout lieu, de tout cœur. Et ça ne vient pas automatiquement. Il faut le développer avec le temps. Mais heureusement, Dieu nous donne du temps. Mais le temps se fait de plus en plus court. C'est pour ça qu'il ne faut pas diluer le temps qui nous reste, mais concentrer pour vraiment nous préparer aux choses qui s'en viennent. Ne jamais oublier, parce qu'Israël a oublié dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont oublié le Dieu qui venait de faire tant de miracles pour eux autres. Nous, on ne doit jamais oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis en même temps, ne pas oublier ce qu'il a fait pour Israël dans le passé, ce qu'il a fait pour ses serviteurs dans la Bible, c'est un encouragement extraordinaire. Et ne pas oublier non plus tout ce qu'il a promis de faire pour vous personnellement, parce qu'il a promis de vous amener à terme. Et on peut compter sur ses promesses parce qu'elles sont infaillibles. Ce qu'il a dit dans la Bible, c'est toujours réalisé. Et quand Dieu dit qu'il va répondre à ceux qui le cherchent et qui cherchent à faire sa volonté, on peut compter qu'il va le faire en son temps, à sa façon. Ça aussi, il faut apprendre ça, il faut le laisser le temps d'agir selon son plan, à sa façon. Mais c'est de là que vient la paix d'esprit quand on agit comme ça, qu'on lui remet entre ses mains nos situations en disant « Je sais que tu vas intervenir pour moi. Donne-moi à moi de faire ma part, par exemple, à te chercher de tout mon cœur, à chercher à me purifier. » Alors, je vous donne ça parce que ça nous donne de quoi à penser. En avançant vers la Pentecôte, pour nous préparer à la Pentecôte. Et ça, si on fait ça, qu'est-ce que ça fait en nous? C'est que ça affermit notre foi. Ça affermit notre foi et ça fait aussi une réaction qui est tellement importante que l'apôtre Paul souligne, il faut ranimer l'esprit. Utiliser l'esprit que Dieu nous donne, mais le ranimer. Si on s'éloigne de Dieu et qu'on compte sur nous, on étouffe l'esprit. Si on compte sur Dieu et qu'on lui demande son aide, on le ranime, parce qu'on compte sur celui qui est la source de la puissance. Ça, c'est toute la différence. Vous savez, durant leur parcours des pains sans levain allés à la Pentecôte, entre leur sortie de la mer Rouge et le mont Sinaï, comme je vous ai mentionné tantôt, les Israélites ont tout de suite oublié les nombreux miracles que Dieu avait faits pour les délivrer. Les 10 plaies, vous les connaissez, des miracles flamboyants qu'il avait fait pour les libérer. La colonne de feu et la colonne de nuée qui les suivaient jour après jour dans leur pérégrination. C'était Dieu qui était là, qui manifestait même physiquement sa présence. Miracle encore, de toute évidence. La traversée de la mer Rouge à sec et la mort des Égyptiens, leur ennemi, qui était à leur poursuite. Miracle de Dieu encore. Et quand ils ont sorti de la mer Rouge, 3 jours après, ils avaient déjà oublié ça. Ça n'a pas duré longtemps, hein? 3 jours après. Puis c'était pas des petites choses, là. C'était des grands miracles. Ils ont oublié aussi les autres miracles que Dieu a fait pour eux autres au cours même des 7 semaines qui allaient se passer entre leur sortie de la mer Rouge et leur arrivée au mont Sinaï pour recevoir les lois de Dieu. Dieu a fait des miracles tout le long encore. Puis tout de suite, ils ont oublié aussi. Ils ont oublié les premiers miracles, puis ils ont oublié les miracles qu'ils vivaient en cours de route. Ils ne les voyaient même pas. Leurs yeux étaient sur eux-mêmes. Ils avaient apporté l'Égypte en eux aussi. 3 jours après la sortie de la mer Rouge. Allez à Exode 15. Exode chapitre 15, s'il vous plaît. Ça vaut la peine. Exode chapitre 15. C'est pour ça que nous, il faut garder les yeux sur celui qui donne la foi et l'amène à la perfection, sur le Christ, notre Rédempteur. 3 jours après la sortie de la mer Rouge, qu'est-ce qui est arrivé? Les Israélites n'avaient pas d'eau à boire. Il y avait de l'eau, mais ce n'était pas de l'eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont dit, Dieu a fait tous ces miracles-là pour nous sortir d'Égypte, pour nous amener jusqu'ici? On va lui demander. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont découragés. Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à accuser les serviteurs de Dieu et à accuser Moïse. C'est ça qu'ils ont fait. Et Dieu a donné à Moïse de purifier ces eaux-là de sorte qu'ils ont pu boire. Ça a été un autre miracle. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu est appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. C'est un test, voyez-vous. C'est des tests que Dieu nous envoie parfois pour voir comment on va réagir. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai, d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. » Alors, Dieu a fait un autre miracle, là, pour eux autres. Ça n'a pas été long, ils ont oublié celui-là aussi. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait fait pour les sortir d'Égypte. Ils ont oublié ce miracle des eaux purifiées. Un mois plus tard, manque de nourriture. Ils oublient encore Dieu. Ils oublient encore sa puissance. Ils oublient encore son but de les amener à la terre promise. Comme si ça n'existait plus, ça. Ça existe toujours, le but que Dieu a pour nous, pour vous, pour moi, de nous amener dans la vie éternelle, de nous amener dans son royaume. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Et il va nous amener à terme si nous ne l'oublions pas et si nous n'oublions pas de mettre en pratique les choses qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont encore plaints. Exode 16. Et là, Dieu leur a donné la manne. Pour deux raisons. Bien sûr, pour les nourrir. Oui. Mais aussi pour leur enseigner l'importante et capitale loi de l'observance de son sabbat. Exode 16, versets 22 à 26. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. » Ça, c'est notre journée de préparation du vendredi. « Et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Alors, Dieu leur montrait, puis de façon répétée, parce que chaque sabbat, il n'y en avait pas de manne à ramasser. Il leur rappelait que le septième jour, c'était son jour à lui et qu'il fallait qu'il le mette en pratique. Allons un peu plus tard dans le temps. Un peu plus tard, il manque d'eau encore. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se tournent pas plus vers Dieu. Ils accusent Moïse. Et même, ils veulent s'en prendre physiquement à Moïse. Ils veulent l'attaquer. Exode 17, juste un peu plus loin, vous pourrez lire versets 1 à 7. Et Dieu a dit à Moïse de monter sur un cap rocheux qu'il y avait là et de frapper le rocher avec son bâton, avec sa verge, et qu'il en sortirait de l'eau. Et Dieu les a abreuvés avec cette eau-là. Un autre miracle éclatant de la part du Tout-Puissant pour montrer qu'il était avec son peuple. Pas longtemps après, un autre miracle que Dieu a fait, c'est que pas longtemps après, Amalek s'est mis à attaquer les Israélites. Et là, Moïse a organisé rapidement une armée qu'il a mise sous la direction de Josué pour contre-attaquer, pour résister aux attaques d'Amalek. Et ce que Moïse a fait à ce moment-là, c'est qu'il est monté sur la montagne pour voir le combat et pour prier Dieu. Et vous pourrez lire tout le contexte. Moïse levait ses mains et priait Dieu quand les deux armées s'affrontaient. Mais à un moment donné, après un certain temps, Moïse venait fatigué, ses bras, il devait les baisser, les descendre. Et quand ses bras étaient descendus, comme s'il arrêtait de prier, c'est pas parce qu'il arrêtait de prier, mais le geste n'était plus là, Dieu faisait en sorte que c'était Amalek qui l'emportait sur Israël. Et quand Moïse relevait ses bras pour prier Dieu et le supplier, Israël reprenait le dessus. Alors, ce qui a été fait, c'est que son frère, Aaron et Hur, sont venus à côté de Moïse et ont supporté ses bras. Comme les membres de l'Église font envers les ministres pour terminer le travail et envers les évangélistes pour terminer le travail. Supporter les bras des serviteurs de l'Éternel. Et ils ont soutenu les bras de Moïse en l'air comme ça, qui priait Dieu pendant ce temps-là. Et ça a duré toute l'après-midi. Et sur le soir, Dieu a donné victoire complète à Israël. Alors, il y a des grandes leçons là-dedans pour nous. D'apprendre à compter sur Dieu. Et c'est lui qui pourvoit dans toutes nos batailles. Mais il faut se tourner vers lui, il faut le supplier, il faut lui demander. Dieu fait tout pour que nous parvenions à vaincre par sa puissance. Tout seul, on ne peut pas. C'est par sa puissance seulement. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Regardez ce qui est dit ici. Chapitre 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé un même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Parce que le Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. Comme la Bible dit, personne n'a jamais vu le Père. Le Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, c'était le Christ. C'était le porte-parole du gouverneur de l'univers. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous aujourd'hui, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. De tourner nos désirs vers Dieu et non pas vers les choses charnelles ou vers les choses du monde. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche. C'était ça le divertissement et les excès de manger et de boire. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Ne murmurez point, ne critiquez point, n'accusez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Et regardez encore une fois, il prend la peine de dire, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, parce que le même risque est là pour nous aujourd'hui. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et tant qu'on ne sera pas changé totalement en être spirituel, on n'est pas certain d'avoir réussi. Dans le sens qu'il faut garder le cap sur le Christ et continuer à avancer, continuer à s'approcher de Dieu. Mais par contre, regardez, aucune tentation ou aucune épreuve ou aucune difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et je connais des gens qui, dans certaines épreuves majeures, ont dit à Dieu, « Père, t'as dit qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces. Moi, je me sens dépassé, je suis écrasé par ce qui m'arrive, mais t'as dit, et c'est une promesse, qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces, aide-moi. » Et ils ont eu l'aide. Mais avec la tentation, ou avec l'épreuve, ou la difficulté, qui est là pour nous aider à développer son caractère, mais qui est là aussi pour nous aider à apprendre à compter sur lui, à nous associer à lui dans toutes choses de notre vie. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Des promesses extraordinaires de Dieu pour vous et pour moi. Tous les appelés passent par une série d'épreuves personnelles. C'est incontestable. Mais nous pouvons toujours compter sur Dieu si nous sommes fidèles, si nous sommes sincères et si nous cherchons à faire sa volonté. Il pourvoit à tous nos besoins. C'est des promesses infaillibles. Il est notre soutien, il est notre protecteur et il va l'être dans les mois et les années qui sont devant nous, alors que nous en aurons plus que jamais besoin. Les Israélites, eux, ne lui ont pas fait confiance, même après ses nombreuses interventions. Leur incrédulité, là, elle est écrite pour nous, pour notre exemple, pour pas qu'on embarque dans ce même scénario-là. On vient de le voir à deux reprises, c'est marqué, cet exemple-là a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On vient d'avoir la joie puis la bénédiction de célébrer la Pâque et les pains sans levain, tout récemment. Et là, on s'en va vers la Pentecôte. Pourquoi est-ce que nous ne jeûnerions pas d'ici la Pentecôte? Je vous dis honnêtement, ceux qui jeûnent seulement le jour des expiations, alors que c'est un jeûne commandé, ne s'approchent pas vraiment de Dieu, malheureusement, dans le sens qu'ils ne vont pas chercher la force de son esprit, sa puissance qui nous transforme. Ils ne vont pas la chercher véritablement. Ceux qui le font, malgré les épreuves qu'ils ont, réussissent à passer à travers. Parce que Dieu voit leur cœur tourné vers lui et le fait qu'ils comptent absolument sur lui en toutes circonstances. On chemine vers la Pentecôte. Alors, pourquoi ne pas jeûner en exprimant à Dieu, un, notre reconnaissance, pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait dans l'histoire, pour la libération de l'humanité qui s'en vient, pour notre libération personnelle. Puis en lui demandant que par son esprit, notre cœur se tourne totalement vers lui pour faire sa volonté. Faire sa volonté, pas la nôtre. Maintenant, rapidement, je vous donne 7 leçons qu'on pourrait méditer d'ici la Pentecôte pour bien nous préparer à cette fête merveilleuse qui s'en vient, qui sera sans doute assez spéciale cette année. Colossiens 3. Si vous avez un marqueur, vous pouvez le laisser dans Colossiens 3. On va revenir à quelques reprises. Colossiens 3, versets 1 et 2. Cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit en allant vers la fête de la Pentecôte. Cherchez les choses d'en haut, donc les choses de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. Donc, on doit chercher les choses qui viennent de Dieu, ce qu'il nous dit de faire, comment il nous dit de vivre. Il nous dit d'apprendre ses voies, d'étudier chaque jour sa parole pour en être nourri, puis la mettre en pratique dans nos vies. C'est ça, chercher les choses d'en haut et nous débarrasser des choses qui sont contraires à sa loi. Ça, c'est la première leçon ou la première chose à laquelle on peut penser d'ici la fête de la Pentecôte. Et vous savez, cette leçon-là, là, de chercher les choses d'en haut plutôt que nos plaisirs personnels ou les voies du monde qu'on doit rejeter, elle est indispensable, cette leçon-là, pour réussir. Sans elle, nous ne pourrons pas achever la course. Sans elle, nous ne pourrons pas achever la course. Et malheureusement, certains, la Bible dit, n'achèveront pas la course. Parce qu'à un moment donné, ils ont laissé aller les choses et parfois, ils ont laissé aller trop loin, de sorte qu'ils se sont retrouvés dans des situations de faiblesse où ils voyaient moins clairement l'importance des choses, l'importance de pratiquer les lois, l'importance de supplier Dieu, l'importance de prier, d'étudier. Sans elle, on ne peut pas achever la course, sans le fait de chercher les choses d'en haut, premièrement. Je pose la question autrement, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Je me la pose à moi, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie maintenant? Qu'est-ce que je dois aimer le plus? Qu'est-ce qui doit venir en premier? À quoi est-ce que je dois consacrer le meilleur de mon temps? La réponse est claire, c'est aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, à la prière, à étudier sa parole. C'est comme ça que je commence chacune de mes journées. Et si je ne les commençais pas comme ça, je sais que je serais faible. Et j'ai besoin de cette force de Dieu-là. Si nous chérissons et recherchons les choses d'en haut, Dieu promet que nous paraîtrons avec le Christ dans la gloire au moment de son retour. Ben oui, il va nous garder. Parce que si on cherche les choses d'en haut vraiment, pas juste théoriquement, mais dans la pratique, il va nous amener à terme et il va nous transformer pour le jour de Jésus-Christ. Verset 4 de Colossiens 1. « Quand Christ, votre vie, le pain sans levain de vie éternelle, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On sera transformé complètement. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sera en chemin. On ne sera pas dans une autre direction ou on ne sera pas au ralenti en laissant tomber des choses. Alors ça, c'est une des réflexions qu'on peut faire d'ici la Pentecôte pour nous aider à bien préparer une fête qui plaise à Dieu. Deuxième leçon, on la trouve pas loin, c'est dans Colossiens 3, verset 5, juste un peu plus loin. Deuxième leçon à méditer, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » Puis là, il donne une série de transgressions des lois de Dieu, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité ou la convoitise qui est une idolâtrie. Oui, parce que si on convoite quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir, c'est qu'on place cette chose-là en avant de Dieu, entre Dieu et nous. Et là, c'est une idolâtrie. Et on transgresse automatiquement le premier commandement. Tout ça se tient. Ça veut dire que chaque jour je dois continuer, et d'ici la Pentecôte en particulier, à ensevelir ma vie passée, mes anciennes façons de faire, mettre ça de côté. Donc, continuer à vivre selon la fête des pains sans levain, à rejeter le mal de ma vie et à l'éliminer de plus en plus complètement. J'y arrive pas d'un coup, mais il faut que je sois en train de le faire. Et M. Ogwin, dans son article, je vous le cite, a mentionné ce petit paragraphe-ci qui a son importance. Par exemple, si nous regardons des films ou des émissions télévisées contraires aux standards de Dieu, nous alimentons nos pulsions mauvaises au lieu de les détruire. C'est facile, c'est un ou l'autre. Si je regarde les films de violence ou les films de perversion de toutes sortes, ou si je me plais dans les jeux de violence ou dans toutes ces choses-là, est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut? Ben non, je m'affectionne aux choses terrestres. Et j'enlève pas ce que je dois enlever. Alors, c'est une chose qu'on doit continuer à faire. Ces tendances-là ne doivent pas subsister dans notre vie et il faut les enlever complètement. Pas à moitié, parce que la nature humaine a cette propension à dire « j'en ai fait un peu, c'est comme si j'avais tout fait ». Non, si j'ai fait juste un peu, enlever un peu du mal, mais que je ne l'ai pas enlevé au complet, que j'en garde un peu parce que ça me plaît, c'est comme si je n'avais rien fait, c'est comme si je ne l'avais pas enlevé. C'est tout ou rien avec Dieu. Troisième leçon. Ou troisième chose à laquelle on peut penser et qui va nous aider à préparer la fête qui s'en vient, Colossiens 3, versets 8 et 9. « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, aux histoires à double sens et tout ça, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Ça veut dire enlever nos vêtements sales, nos façons de faire qui ne sont pas correctes, nous débarrasser de certaines conduites ou de certains comportements qu'un chrétien ne doit pas avoir. Tout simplement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, vous pourrez aller voir dans Ésaïe 64 et le verset 5, Dieu dit, en parlant des hommes, « Les hommes, nous sommes tous comme des impurs. » Et toute notre justice humaine est comme un vêtement souillé. Toute notre justice humaine au point de départ, là, avant de connaître la vraie justice de Dieu, même si on se pense bon, même si on pense faire des bonnes choses et tout ça, Dieu dit, cette sorte de justice-là qui est humaine, selon la logique humaine, qui peut apporter des bons sentiments, de se sentir bon, de se sentir important, cette sorte de justice-là, c'est un vêtement souillé. Vous savez, c'est un changement total auquel Dieu nous appelle. Je pense que ça prend du temps avant qu'on le réalise et je me demande si on le réalise encore vraiment. Plus le temps va avancer, plus on va le réaliser. Quatrième leçon. Comme on doit enlever les vêtements sales, si vous voulez, on doit mettre des nouveaux vêtements. Revêtir le Christ, comme la Bible parle. Colossiens 3, verset 10, juste un petit peu plus loin. « Ayant revêtu l'homme nouveau » qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, on revêt le Christ, c'est-à-dire qu'on adopte les comportements du Christ par son esprit. On lui demande de vivre en nous, de lutter en nous, de nous donner la victoire sur nos fautes, nos faiblesses, de nous aider à réagir comme lui réagirait dans telle ou telle circonstance. Et ce faisant, à ce moment-là, on se revêt du Christ, si vous voulez. On prend pour nous ses comportements, ses façons d'agir à lui. On devient comme le plus vieux de la famille encore. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Et là, c'est un nouveau moi qui apparaît. C'est l'homme nouveau dont la Bible parle. Et cet homme nouveau-là, c'est un homme intérieur qui a le caractère de Dieu de plus en plus, qui ressemble au Christ de plus en plus. Et cet homme nouveau-là, ou cette femme nouvelle-là, ce moi nouveau, il n'est pas destiné à vieillir. Et il n'est pas destiné à dégénérer. C'est le caractère de Dieu qui va rester en nous pour l'éternité si on maintient la même tendance jusqu'à temps que Dieu nous transforme complètement. Regardez ce que dit le verset 12 de Colossiens 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, et vous êtes des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. » Voyez-vous, il faut mettre d'autres choses en nous, il faut mettre d'autres choses sur nous. « Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, comme ceux du Christ. On se revêt des habits du Christ, pour ainsi dire, de sa façon de faire à lui, de sa façon de penser. Alors, c'est une autre chose qu'on peut méditer d'ici la Pentecôte pour bien se préparer. Cinquièmement, tout ça, en faisant ça, aura un impact. Un impact dans nos relations les uns avec les autres. Et regardez ce que dit le verset 13. C'est le cinquième point ou la cinquième chose à laquelle on peut penser et développer pour améliorer notre comportement d'ici la fête de la Pentecôte. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Oui, parce qu'on est encore des êtres humains. Et parfois, même sans le vouloir, on peut s'offenser ou on peut faire des choses qui déplaisent à d'autres sans s'en rendre compte ou ainsi de suite. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ce qui arrive inévitablement un jour ou l'autre, gardez, pardonnez-vous réciproquement. C'est la recette ultime. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est la recette pour qu'une famille soit heureuse, soit en paix, soit en harmonie et soit unie. Vous savez, dans une famille humaine, il y a des gens qui parfois se pilent sur les pieds les uns les autres. Mais quand vous avez une famille où les gens font attention pour ne pas réagir et sauter sur l'autre et commencer à accuser et à créer des problèmes additionnels, mais qu'on passe par-dessus. Vous savez que c'est une famille qui, on dit, c'est une famille unie puis c'est une famille harmonieuse. Il y en a des familles comme ça, où les gens sont capables de passer par-dessus des choses et ils vont rester amis durant toute leur vie. Ils vont se voisiner même et tout ça, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur certaines choses. Ils vont même s'entendre parfois pour ne pas discuter de certains points au sujet desquels ils risquent de s'entrechoquer, si vous voulez. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils font attention les uns aux autres pour garder l'unité de la famille. Et dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Et cette unité-là va aller en grandissant. Et là encore, je vous cite M. Ogwin, à ce sujet-là, il dit « La Bible nous exhorte à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner réciproquement. Au lieu de nous emporter, ça c'est la nature humaine, de nous offenser, c'est encore la nature humaine, et de garder rancune, nous devons manifester à notre prochain les sentiments du Christ que nous allons développer uniquement grâce à son aide, si nous sommes proches de lui. » Certes, nous avons tous nos petites irritations, mais Dieu nous demande de nous supporter les uns des autres et de nous pardonner réciproquement pour que la famille continue d'avancer vers le même but et que là, on devienne des encouragements les uns pour les autres. Sixième leçon, si on fait ça, c'est qu'il y aura une paix et une reconnaissance qui va s'installer en nous. Et ceux qui le font, je sais que un bon nombre de personnes le font, il y a une paix, il y a une reconnaissance dans le cœur de ces gens-là. Les animosités s'en vont. On passe par-dessus. On continue notre route. Dieu bénit dans ce sens-là. Philippiens 4, juste un peu avant. Philippiens, et le chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit toujours, ça veut dire, quelles que soient les circonstances. Oui, parce que j'ai un Dieu suprême qui prend soin de moi et qui est prêt à m'aider dans toutes circonstances si moi, je le supplie. Si j'en fais mon associé dans toute chose de ma vie, les grands aspects comme les petits aspects. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Dans notre cas, c'est encore plus vrai. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce, ça c'est avec reconnaissance. Demandez à Dieu, soumettez-lui vos problèmes, mais manifestez votre reconnaissance. Et regardez ce qui arrive à ce moment-là, verset 7. « Et la paix de Dieu, c'est une paix d'esprit, une paix intérieure, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Formidable! Formidable! Et cette paix-là, elle ne vient pas du monde, vous le savez. Elle ne vient pas du monde. Ça ne peut venir que de Dieu. Et on peut avoir cette paix-là, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, à un moment donné, il était en prison, il était avec des chaînes aux pieds et il chantait des cantiques. C'est parce qu'il y avait la paix, cette paix intérieure-là. Pourtant, les circonstances étaient complètement adverses. Vous avez d'autres serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés dans des circonstances extrêmement pénibles et difficiles, mais parce qu'ils mettaient leurs yeux sur Dieu, ils savaient que Dieu savait ce qu'ils vivaient, ils s'en remettaient à lui, ils disaient, « Dieu, c'est toi qui pourvois, tu vas faire en sorte que ta volonté se fasse à travers moi dans ce que j'ai à vivre. Merci d'avance de ce que tu vas faire, même si je ne sais pas comment cette chose-là va se terminer. » Ça, c'est de faire confiance entièrement à Dieu. Et Dieu aime ça, et Dieu intervient dans ce temps-là, à sa façon. Quand on a foi en Dieu, quand on a confiance en lui, automatiquement, il y a de la reconnaissance. Oui, il y a de la reconnaissance parce qu'on reconnaît ce qu'il a fait. On reconnaît ce qu'il va faire avant qu'il le fasse. Parce qu'on dit que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu dis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te le rappelle. Et je sais que tu vas intervenir parce que tu n'abandonnes pas celui qui se tourne vers toi. Tu nous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. C'est sûr que ce qu'on cherche, ça doit être la volonté de Dieu. Et ce qu'on doit chercher, c'est les choses d'en haut. Si je cherche d'autres choses que les choses d'en haut ou que je garde dans ma vie des choses que je n'ai pas à garder, c'est sûr que je mets un mur entre moi et Dieu à ce moment-là. Mais si je cherche vraiment Dieu en me repentant, Dieu va me répondre et j'aurai cette reconnaissance-là envers lui et j'aurai la paix d'esprit, même dans la tourmente, même dans les situations difficiles. Et ça, là, c'est un fruit précieux. Et c'est le fruit d'une relation étroite avec notre grand Dieu qui veut avoir un rapport étroit avec nous. C'est notre Père. Il veut nous garder sous son aile. Il dit qu'on est plus important pour lui que la prunelle de ses yeux. Il dit qu'il a les yeux constamment sur ses enfants. Dernière leçon, septième leçon, ou septième chose qu'on peut examiner d'ici la Pentecôte pour bien nous préparer, on la retrouve à Colossiens 3 et le verset 16. Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est ça la parole de Christ ici. C'est la Bible. Ça, c'est le Christ en écrit. C'est le plan de Dieu. Il dit que son message reste en vous. Et pour que son message, que sa parole reste en moi, il faut que je m'en sois nourri. Il faut que je l'ai étudié jour après jour, année après année, et que je continue à l'approfondir. Il dit, si ça, ça reste en vous, Dieu va être avec vous et il va vous aider. Son message doit être profondément enraciné dans nous. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est parce qu'on l'a étudié chaque jour et on continue chaque jour à l'approfondir. Et ce message-là, le message de l'Évangile, de la libération prochaine de l'humanité, du retour de Christ, le message que l'Église annonce sur les réseaux de télévision, de radio, à Internet et dans les autres moyens de communication, c'est le même message. Et ce message-là, il doit nous habiter, il doit nous envahir, il doit diriger nos pensées, nos émotions, nos réactions. C'est notre vie. C'est plus que ça, c'est notre vie éternelle qui en dépend. Dieu nous a appelés pour nous donner la vie éternelle. Mais il faut que ce soit importante pour nous les choses qui sont importantes pour lui. Il faut que ce soit nos priorités. Notre vie entière doit être guidée par la parole de Dieu que nous étudions chaque jour et que nous mettons en pratique. La merveilleuse Pâque que nous avons prise récemment, j'espère que vous le voyez encore davantage, elle est directement liée à la fête de la Pentecôte. Directement liée à la fête de la Pentecôte. La Pâque, le Christ qui est notre Rédempteur. Pain sans levain, le Christ qui est le pain sans levain de la vie éternelle. Pentecôte, le Christ qui vit en nous par son Saint-Esprit, qui a été donné à plusieurs le jour de la Pentecôte et qui est donné à chacun de ceux qui sont baptisés maintenant d'ici le retour de Christ. Alors, la Pâque, les pains sans levain, directement liés à la Pentecôte. Nous devons compter 7 semaines entre les deux. Alors, d'ici la Pentecôte, moi je vous dis, profitons-en pour méditer notre cheminement. Profitons-en pour nous tourner totalement vers notre Dieu, pour établir les bonnes priorités, pour réaliser qu'on a besoin de Dieu de façon absolue, totalement sur le plan physique et totalement sur le plan spirituel. Notre besoin absolu de sa puissance. Et ce matin, en terminant le sermon, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit comme ça, et je suis venu à bout de le retrouver grâce à ma concordance. Je trouve ça tellement encourageant. Ésaïe 64, verset 4. « Tu vas, » il parle de Dieu, « toi Dieu, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » OK? Il va même au-devant de celui qui pratique la justice, mais qui n'est pas encore parfait, mais qui est en train de faire des efforts et qui le supplie. Dieu dit, « Attends pas, il va au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. » Contrairement aux Israélites qui ont tout de suite abandonné l'Éternel quelques jours après les nombreux miracles qu'il avait fait et même après chacun des autres miracles qu'il a fait par la suite alors qu'il se rendait vers le mont Sinaï. On ne doit pas oublier. Souviens-toi. Dieu rappelle ça souvent dans la Bible. Souvenez-vous. Et en terminant, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, son Saint-Esprit, qu'on va souligner à la fête de la Pentecôte, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. C'est gros, cela. On demande plein de choses, mais il dit, il peut faire beaucoup plus que ce que vous demandez. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Voyez-vous, si on a à cœur de servir Dieu, de faire sa volonté, si on le supplie, si on dit, j'ai besoin de toi chaque jour, chaque instant, transforme-moi pour que je fasse ta volonté, à ce moment-là, par sa puissance, il va nous transformer et il va nous amener à terme. Préparons-nous à cette Pentecôte qui vient avec reconnaissance, avec joie, avec enthousiasme pour célébrer la fête de la Pentecôte comme jamais auparavant.